Jamais autant qu'en 1973, la généralisation de la détente n'avait entraîné une telle multiplication des rapports et des contacts internationaux. D'aussi loin qu'on se souvienne, le monde n'avait assisté à pareil ballet de personnalités se rendant visite pour conférer. Au mois de janvier, cette diplomatie itinérante conduit le président de la République française en Union soviétique. Au cours d'une conférence de presse donnée à Minsk, M. Pompidou devait déclarer:
on avait dit que cette réunion devait forcément bien se terminer. Je crois pouvoir vous dire qu'elle s'est terminée mieux qu'on ne le disait. J'ajoute qu'il n'a pas été question une seconde de politique intérieure soviétique ou française.
Le 20 janvier, à l'occasion de son discours d'investiture, le président Nixon, réélu en novembre 72 avec une écrasante majorité, confirme qu'il entend bien que la coexistence pacifique ne reste pas un vain mot.
The central question before us is, how shall we use that peace? Let us resolve that this era we are about to enter will not be what other post-war periods have so often been, a time of retreat and isolation that leads to stagnation at home and invites new danger abroad. Let us resolve that this will be what it can become, a time of great responsibilities greatly borne, in which we renew the spirit and the promise of America as we enter our third century as a nation.
C'est que la phase de l'internationalisation de la guerre du Vietnam est close. Henry Kissinger, conseiller personnel du président et bientôt secrétaire d'État, reçoit la mission de concrétiser le désengagement américain.
The president has sent me back to Paris to make one more major effort to conclude the negotiation.
Au cours de pourparlers 20 fois rompus et renoués, un accord de principe se dessine. C'est ce qu'annonce M. Le Ducteau, représentant du Nord-Vietnam. En fait, les difficultés de dernière minute ne sont pas encore résolues. Pourtant, les représentants des belligérants sont déjà à Paris, prêts à se retrouver autour de la table ronde. Pour le gouvernement du Nord-Vietnam, ce sera M. Phan Van Dong.
Alors qu'il est, il s'agit d'arriver à un accord, à le signer et après à l'exécuter.
M. Tran Van Lam représentera le gouvernement du Sud.
En parlant de la signature possible des accords, nous pouvons vous affirmer que nous ne signerons pas dans aucun document qui mentionnerait les gens du Front des Libérations comme le GAP, le gouvernement provisoire révolutionnaire. C'est très clair.
C'est une femme, Madame Bin, qui est chargée de paraffer les accords au nom du gouvernement révolutionnaire du Sud-Vietnam.
Le gouvernement révolutionnaire provisoire est prêt, une fois l'accord signé, d'engager des conversations avec l'administration de Saigon et avec toutes les forces politiques pour régler les problèmes intérieurs au Sud-Vietnam.
Cependant, depuis Saigon, le président Thieu exprime le scepticisme de son gouvernement.
La paix, une paix véritable, une paix durable, tout ça dépend de si les communistes vont respecter le cessez-le-feu, s'il y a une solution politique honorable pour les deux parties, entre nous et le NNF, si cette solution politique pourrait être exécutée, mise à exécution correctement, et si, quand il y a les résultats, si les communistes tiendront à respecter les résultats. Alors, en ce moment-là seulement, je peux dire que nous avons une paix durable et une vraie paix.
Les accords de cessez-le-feu seront signés le 27 janvier, mais l'armistice n'est pas la paix, et les combats continueront tant au Vietnam qu'au Cambodge voisin. Il disait vouloir se marier dans la plus stricte intimité. Pourtant, Annie Chancel, mieux connue sous le nom de Sheila, épouse le 13 février Guy Bell, dit Ringo. L'événement a lieu à la mairie du 13e arrondissement, devant le tout Paris du show business.
consentez-vous à prendre pour légitime épouse
oui, bon,
mademoiselle Chancel, ici présente.
Oui.
Mademoiselle Annie Yvonne Jeanne Gisèle Chancel, consentez-vous à prendre pour légitime épouse monsieur Guy Ludovic Georges Bell, ici
oui.
présent.
Oui.
Le 10 février, la rocambolesque disparition du cercueil du maréchal Pétain, que quelques fanatiques avaient voulu transférer à Verdun, soulève l'indignation de Maître Isorni.
Je ne sais rien de plus que ce que je viens d'apprendre par la presse, c'est-à-dire qu'une déclaration avait été faite par M. Hubert Massol, que je ne connais pas, et qu'au cours de cette déclaration, au cours de cette conférence de presse, il avait déclaré qu'il était prêt à rendre le corps pour qu'il soit inhumé provisoirement dans une crypte de la chapelle des Invalides, à la condition que M. le Président de la République lui écrive pour assurer qu'il y aurait la révision et ensuite la translation des cendres à Douaumont.
21 personnes, la plupart des enfants, meurent carbonisées au cours de l'incendie criminel qui détruit le 6 février le collège d'enseignement secondaire de la rue Édouard Pailleron. Le ministre de l'Éducation nationale, Joseph Fontanet, ne peut cacher son émotion, tandis que déjà, d'aucuns accusent les insuffisances des constructions et des mesures de protection.
Il faut effectivement apporter une explication au fait devant lequel on se trouve, fait hélas si cruel, à savoir que le CES Édouard Pailleron a brûlé dans des conditions qui ne sont pas la preuve que tout ce qu'on attendait de ces sécurités devait apporter. Alors, est-ce dû à des malfaçons ou est-ce dû à une erreur de conception? C'est une des choses que l'enquête, à l'heure actuelle, doit évidemment le plus rapidement possible mettre en évidence.
La mise sur pied du programme commun de la gauche avait inquiété les trois formations de la majorité. Aussi, Pierre Messmer riposte. Son programme, il le présente le 7 janvier à Provins, devant l'UDR et ses militants. Il y annonce d'importantes mesures économiques et sociales.
Je puis le dire avec assurance, le changement, c'est nous. Le mouvement, c'est nous. Et nous le prouvons, non par des paroles, mais par nos actes. Des transformations profondes interviendront dans notre vie économique, sociale, culturelle. Vont-elles dégénérer en dictature collectiviste et se dégrader en un morne régime totalitaire tout en provoquant secousses, désordres et désespoirs? Ou bien pouvons-nous les accomplir et nous voulons les accomplir dans la continuité de l'œuvre dont nous sommes fiers? En conjuguant la paix dans la cité, l'autorité au gouvernement, le bonheur et la liberté des Français.
Tandis que l'échéance électorale de printemps se rapproche, la virulence de certaines attaques va en s'intensifiant. Ainsi, le 14 février, au Palais des Sports de Toulouse, M. Servan-Schreiber vient critiquer le programme Concorde. Accueilli par des sifflets et des colibets, le leader du parti radical essaie de se faire entendre des 3000 spectateurs entassés. Les attaques de M. Servan-Schreiber ne sauveront pas de l'échec électoral les candidats réformateurs toulousains. Par ailleurs, les remous provoqués par certains scandales où des membres de l'UDR sont impliqués suscitent un malaise dans l'électorat gaullien. Pour redresser la barre, le chef de l'État s'adresse aux Français.
Le Parti communiste et le Parti socialiste ont entamé une lutte globale
contre tout ce qu'a fait le général de Gaulle dans tous les domaines. Ce n'est pas très agréable pour ceux qui ont participé à cette œuvre. Mais il me paraît que c'est encore plus désobligeant pour les Français. Car après tout, on ne leur propose pas de modifier ici ou là une tendance, d'accentuer ici ou là un effort, d'ouvrir un peu plus le chemin à des hommes nouveaux, toute chose qui serait parfaitement imaginable. On leur demande de se déjuger complètement et de reconnaître que depuis 15 ans, chaque fois qu'ils ont été consultés par référendum ou par les élections, ils ont répondu de travers.
Pendant 3 semaines, les ténors du match politique se succèdent sur les ondes pour faire valoir leur vision de la société et fustiger celle de leurs adversaires. Rigoureux et compassé, Pierre Messmer semble gêné d'avoir à perdre son temps quand il y a la France à gouverner.
Nous sommes à la croisée de 2 chemins. L'un de ces chemins, c'est celui que vous avez choisi depuis que le général de Gaulle, en 1958, a fondé la Ve République. Il mène à la grandeur de la France et aussi à votre bonheur par le progrès dans la paix et dans la liberté. L'autre chemin vers lequel veulent vous entraîner les communistes et leurs alliés socialistes, c'est l'aventure collectiviste avec toutes sortes de difficultés, de risques et de crises. Et ce chemin est sans retour.
Brûlant doctrinaire, voici Alain Krivine qui, au nom de la Ligue communiste, chante sans fin l'hymne à la révolution permanente.
En appelant les travailleurs à voter massivement pour les candidats révolutionnaires de la Ligue communiste ou de lutte ouvrière, ils montreront non seulement leur volonté de battre l'UDR, de chasser Pompidou, mais aussi ils montreront aux dirigeants de l'Union de la Gauche qu'il existe désormais en France une force révolutionnaire qui ne compte que sur ses luttes et non pas sur les bulletins de vote pour enfin instituer en France un véritable pouvoir des travailleurs, c'est-à-dire une république socialiste.
Voici Jean-Marie Le Pen, président du Front National, qui regroupe les militants d'une droite qui n'a pas peur de dire son nom.
Chers compatriotes français, je ne viens pas vous faire de promesses. On vous en fait tous les jours. Je viens vous dire la vérité, et c'est le plus grand service et le plus bel hommage qu'un homme politique peut rendre à ses concitoyens. La vérité, c'est que notre pays, sous le couvert d'un apparent progrès économique et social, traverse en fait une grave crise morale et politique. Et que cette crise morale et politique, qui attaque la famille, attaque l'individu et menace la nation, est le fait de l'impuissance et de l'immoralité du pouvoir. Quand le pouvoir refuse de choisir entre le bien et le mal, entre l'ordre et le désordre, quand le pouvoir fait la balance égale entre le crime et l'innocence, qu'il est plutôt au service des grandes puissances d'argent qu'au service des citoyens faibles et pauvres, alors il trahit sa mission qui est de respecter la loi. Et il est alors menacé d'emporter dans sa perte les institutions politiques et la paix civile.
Candidat, Giscard d'Estaing n'oublie pas qu'il est ministre des Finances.
Ce progrès économique des dernières années que vous voyez autour de vous et dans une certaine mesure chez vous, sans doute il a été conduit par le président de la République, sans doute il a été organisé par le gouvernement, mais il résulte pour l'essentiel du travail des Françaises et des Français de toutes conditions et de toutes fonctions. En ce progrès économique, il n'est pas assuré et il est toujours fragile. Et je tiens à vous dire que l'application en France d'une politique économique irréaliste et déraisonnable, comme celle qu'on vous propose, briserait à coup sûr ce progrès économique.
Mais le 4 mars, les dés sont jetés. Poussée socialiste, maintien des forces communistes, coup d'arrêt de la majorité. Désormais, tout peut arriver. Aussi, les voix des réformateurs de Jean Le Canuet deviennent-elles l'enjeu du second tour.
Que s'est-il passé dimanche dernier? Les Français, dans leur très grande majorité, ont condamné la politique que nous avons subie, celle de la majorité sortante. Le changement est donc en marche, en vue des réformes pour lesquelles nous avons combattu et grâce au groupe que nous allons composer dans l'Assemblée nationale avec votre aide, ces réformes deviendront des réalités.
Roulant les yeux, tendant les lèvres, voici François Mitran, un vieil habitué des combats politiques.
Dimanche dernier, 4 900 000 voix pour les candidats socialistes et radicaux de gauche. La plus forte progression en suffrage de toutes les forces politiques françaises. Le Parti socialiste, parmi les trois premiers partis de France, voilà de quoi remercier celles et ceux d'entre vous qui ont compris qu'en votant socialiste, ils donnaient à notre pays sa seule chance de se débarrasser d'une société d'injustice et d'inégalité, celle qui nous gouverne.
Georges Marchais, sourire crispé qui se veut apaisant, brandit machinalement les armes rituelles.
Je ne doute pas que les électeurs communistes qui ont voté le 4 mars pour nos candidats porteront leur suffrage au deuxième tour sur les candidats socialistes, radicaux ou PSU, porteurs des couleurs de la gauche unie et des espérances des travailleurs et des masses populaires. Je ne doute pas que les électeurs socialistes, radicaux ou PSU porteront au deuxième tour leur suffrage sur les candidats communistes, porteurs des couleurs de la gauche unie et des espérances des travailleurs et des masses populaires.
Le 11 mars, le second tour est sévère pour la majorité, qui est cependant reconduite à nouveau. 98 députés sortants ont été battus, parmi lesquels Maurice Schumann, Léo Hamon, René Pleven et Alexandre Sanguinetti. Battus sur le plan électoral, la gauche entend maintenant porter le combat sur le terrain syndical. C'est ce qu'annonce Georges Ségui, secrétaire général de la CGT.
On se réfère à un certain nombre de thèmes sociaux que nous avons rendus très mobilisateurs par notre action syndicale antérieure, mais on ne précise pas grand-chose. Voilà pourquoi, s'il était normal que nous rappelions cela au lendemain des élections législatives, il ne saurait être question de nous installer dans l'idée que l'avenir social de notre pays repose sur un prétendu programme de province qui reste très vague dans ses contours et très flou dans sa forme.
C'est aussi l'avis de Edmond Maire de la CFDT.
On est en train de vouloir refaire aux travailleurs le coup de fin 68 et de l'arrivée ensuite en 69 du gouvernement Chalon-Delmas. Nous nous tenons à ce qu'il n'y ait pas seulement des réformettes, à ce qu'on ne se contente pas de paroles, mais à ce qu'on passe aux actes. Et de ce point de vue, le programme de Provins contient non seulement des points insuffisants et des points flous, mais aussi des points dangereux.
André Bergeron est plus nuancé.
Le gouvernement a pris des engagements. Eh bien, il faut que ces engagements soient tenus. Si d'aventure il ne les tenait pas, alors naturellement, Force ouvrière aurait recours à l'action syndicale traditionnelle. C'est une évidence.
Pourtant, les électeurs ont choisi le changement dans la continuité. À l'issue des élections, on forme le nouveau ministère. Surprise, Michel Jobert, un inconnu du grand public, remplace Maurice Schumann au Quai d'Orsay, tandis qu'un académicien, Maurice Druon, se voit confier le portefeuille des affaires culturelles.
C'est prodigieusement intéressant, c'est même passionnant de voir comment se tisse le fil quotidien de l'histoire entre ceux qui ont la charge du destin d'un grand pays.
La présidence de l'Assemblée nationale, le perchoir, est considérée comme un tremplin possible pour l'élection présidentielle. Pourtant, Chaban Delmas, ancien titulaire, décide le 23 mars de ne pas poser sa candidature.
Le problème n'est pas de viser des fonctions officielles, des postes, si importants soient-ils, mais de se préparer à être à nouveau utile au pays si les circonstances y conduisent.
Le bureau central de l'UDR se prononce officiellement pour M. Edgar Faure. L'ancien président du Conseil est élu président de l'Assemblée nationale par 274 voix contre 180 au socialiste Mauroy.
Celui d'entre vous que vous désignez par un libre scrutin et dans une intime détermination pour diriger vos débats et pour présider à votre vie collective pendant le cours d'une législature ne peut pas ne pas en ressentir l'honneur.
Condamné l'an dernier pour avoir exhibé son envers, il est critiqué cette année pour avoir caché son endroit. Michel Polnareff s'en explique.
C'est pas du tout de la provocation, c'est simplement pour montrer aux gens que je me suis pas du tout dégonflé pour faire une affiche qui va, à mon avis, beaucoup plus loin que la première et qui n'est pas condamnable, ce qui est un peu paradoxal. Disons que j'ai un double personnage, c'est-à-dire le personnage qui écrit des chansons et le personnage qui, disons, est témoin de son temps et prend certaines positions devant certains tabous qu'il trouve un peu dépassés.
Picasso s'éteint le 8 avril, à l'âge de 92 ans. Servi par une longévité peu commune, l'œuvre de Picasso avait été d'une extraordinaire fécondité, faisant de lui le grand prêtre d'un art provocant, engagé et anticonventionnel.
Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas ? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'est comme ça.
En ce début de législature, le ministre de la Défense nationale est la cible de l'opinion publique, au sujet des sursis et du service militaire. Intransigeant, Michel Debré décide de faire front.
Je ne pense pas que ces jeunes qui manifestent soient réellement conscients de ce qu'on leur demande de faire. Le panneau, c'est le panneau tendu par des mouvements politiques, par des personnalités politiques, dont le rêve, en fin de compte, est de détruire, à travers l'armée, à travers la défense, une certaine image de la nation et de la République.
Mais le Saint-Jean-Baptiste du gaullisme est devenu un symbole encombrant. Il va être écarté de sa charge, tandis que Pierre Messmer, qui présente le 12 avril à l'Assemblée nationale son gouvernement et son programme, annonce des assouplissements dans l'application des sursis. Commentant ensuite une formule de François Mitran, il ajoute
« Safari électoral, c'est une expression qui, lorsqu'on la lance, fait mouche et a tendance à faire sourire, mais qui en réalité est une expression gravement fautive. Et je m'explique pourquoi. Qui dit safari dit chasseur. Les chasseurs, ce sont les candidats. Et dit gibier, et les gibiers, ce sont des électeurs que M. François Mitterrand désigne ainsi, et ceci est inadmissible. Car c'est inadmissible, car cela trahit, peut-être inconsciemment, cela trahit. Cela trahit peut-être inconsciemment un mépris de l'homme outre-mer que je ne laisserai pas passer.
Aux frontières de la politique, un autre débat divise l'opinion. C'est celui de l'avortement qu'évoque à l'Assemblée Jean Tétinger, ministre de la Justice.
On ne peut légiférer en un domaine qui touche si profondément à la conscience de chacun sans tenir compte de toutes les tendances et sans peser les conséquences tant morales que sociales des modifications envisagées.
L'admission de l'avortement libre par un pays aussi imprégné de christianisme que la France est difficilement acceptable par l'Église catholique. C'est ce que souligne le cardinal Danielou.
Je pense que ce contre quoi alors l'Église réagit avec beaucoup de force, c'est le danger aujourd'hui d'une certaine dépréciation de la vie humaine, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un monde où il y a un danger du gaspillage de la vie humaine et l'Église pense que l'avortement relève aussi d'un certain danger aujourd'hui du gaspillage de la vie humaine.
À Washington, le 17 juin 1972, cinq hommes avaient été surpris au quartier général du Parti démocrate de l'immeuble du Watergate, en train de poser des micros pour le compte du Parti républicain. Une commission sénatoriale, présidée par le démocrate Sam Ervin, est aussitôt chargée de faire toute la lumière sur l'affaire.
The committee will come to order. The council will call the first witness. This is John W. Dean III. Stand up and raise your right hand.
Le premier témoin, John Dean, est l'ancien conseiller juridique du président Nixon. Il accuse aussitôt son ancien patron. Bientôt, c'est toute la Maison-Blanche qui va défiler et les collaborateurs les plus proches de Nixon sont obligés de démissionner. Mais la presse a encore un vieux compte à régler avec le vice-président, qu'elle accuse de fraude fiscale. Spiro Agnew se défend et clame partout son innocence. Il sera pourtant reconnu coupable et devra démissionner tandis que ses détracteurs les plus acharnés réclament maintenant à corps et à cri le départ du président Nixon. L'homme de la paix serait-il lui aussi corrompu? Dans leur grande majorité, les électeurs qui lui ont fait confiance en 72 n'ont pas changé d'avis. À Cannes, Ingrid Bergman est devenue, pour l'occasion, présidente du jury du festival.
J'espère que j'étais honnête à donner exactement le prix à ce que je pensais. Mais nous sommes enfin neuf. Et même si je suis la présidente de la jury, j'ai seulement un vote. Et tout le film a eu un aspect complètement différent de l'autre. C'est pour ça que c'était assez intéressant à aller voir, parce que tout le voir, c'était quelque chose de différent.
Le Grand Prix de la critique internationale va au film La Grande Bouffe, qui suscite en quelques jours une nouvelle bataille d'Hernani.
Le jeu n'est pas mauvais, mais tout ce qui s'y passe, c'est vraiment immonde. Le dernier tango à Paris, c'est de la rose à côté.
Moi, je me suis ennuyé à mourir, je trouve ça dégueulasse.
Moi, je trouve ça très bien, c'est très drôle. Ça faut prendre ça sur la rigolade, je pense.
Pour ça, immonde. C'est inimaginable qu'on puisse montrer des choses pareilles.
Je n'ai pas compris pourquoi on l'avait fait.
Non, moi, ce qui m'ennuie, justement, c'est que j'ai pas fait, mais j'ai trouvé le film très amusant, très, très bien.
C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que, à mon avis, il y en a qui crèvent de faim de présenter un film comme ça.
J'espère qu'on versera le bénéfice de ce film à ceux qui crèvent de faim à la campagne de la faim.
Pour la première fois depuis 1910, les habitués du tournoi des Cinq Nations ne connaîtront ni vainqueur ni vaincu.
Je crois qu'on est sur la bonne voie, mais il faut continuer. Et si on continue, je crois que le tournoi des Cinq Nations, un de ces quatre matins, il reviendra à l'équipe de France.
Walter Spanghero, 50 fois sélectionné, effectuait au printemps son ultime sortie avec l'équipe nationale. Après plusieurs victoires, Dax, qui partait favori de la finale de rugby à 15, est battu par Tarbes le 20 mai, par 18 à 12.
53 ans après, plus d'un demi-siècle, le bouclier de Brennus revient à Tarbes, et cela grâce à vous. Toute la France entière a eu les yeux braqués sur Tarbes, et cela, je vous en remercie, je vous en suis reconnaissant.
Lundi 5 juin, c'est la finale des internationaux à Roland-Garros.
Avantage. Nastase,
l'un des meilleurs joueurs sur terre battu, remporte un nouveau triomphe.
Mes coups maintenant sont plus durs que 2 ans avant, 3 ans avant. Je joue plus en force qu'avant.
Le Mans, 10 juin. C'est le duel Ferrari-Matra. La lutte s'annonce sévère et cependant, les partants décident de jouer la prudence. Malgré de graves ennuis de pneumatique, les pilotes mènent la course tambour battant. À 14h25, la Ferrari abandonne. La course est finie. Matra remporte brillamment le titre de champion du monde des constructeurs 1973 grâce à Henri Pescarolo.
Je crois qu'on a un peu trop tendance à dire aux 24 heures du monde qu'il y a seulement la voiture qui compte. Je crois que l'équipage compte énormément, autant que la voiture, dans un domaine peut-être un peu différent, pas seulement celui de la vitesse pure. Il y a beaucoup d'autres qualités qui entrent en jeu, elles entrent en jeu autant que la voiture.
132 coureurs au départ du Tour de France. Plus de 4000 km à parcourir pour rallier Paris le 22 juillet.
Le Tour, si je le gagne cette année, ça sera une compensation de tous les malheurs que j'ai eus. Et dans ma victoire, c'est plutôt pour les autres que pour moi.
C'est un Louis Socagna, rayonnant, qui montera sur la plus haute marche du podium.
Louis Socagna, vous êtes très éprouvé, il semble.
Non, je ne suis pas du tout éprouvé. Je me nettoie la figure. C'est tout. Pourquoi éprouvé ?
Depuis 4 ans, le petit coureur espagnol suivait le Tour sans accéder à la victoire. Le dimanche 3 juin, au 30e salon du Bourget, un avion soviétique, le supersonique Tupolev 144, qui ressemble comme un frère jumeau au Concorde, explose au cours d'une démonstration en vol. Bilan, 13 morts, 14 maisons pulvérisées. Le député Marcel Dassault, grand maître de l'industrie aéronautique française, explique.
Pour ce genre d'expérience, le terrain d'aviation du Bourget était trop petit, que s'il s'était étendu à la place des villages environnants, le Tupolev se serait posé normalement, mais que se trouvant au-dessus d'un village, il a, à mon avis, voulu l'éviter, et que pour cela, il a donné des... Il a fait des efforts de gouverne, il a donné une ressource trop importante à son avion, et en voulant éviter l'accident, et ben malheureusement, il ne l'a pas évité.